إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإخوتي في الله وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحمد الله عز وجل نواصل دراستنا لشرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب الكرم، في باب الكرم. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعير بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني أو تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. Donc on poursuit bien Allah Azza wa Jal notre étude du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Hafiz al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, et nous sommes toujours dans le chapitre numéro 71 intitulé le chapitre de l'honorabilité. Et on avait vu que Al-Karam, c'est un attribut ou un caractère qui fait que la personne qui le possède sera Karim. Donc celui qui possède le caractère de Al-Karam, on dit qu'il est Karim. Wa Al-Karim huwa al-jami' li anwa' al-khayr wa al-sharaf wa al-fada'il. Mais comme on avait dit dans le cours dernier, Al-Karim, c'est celui qui a réuni les types de bien, d'honorabilité, de mérite, de qualité. Donc celui qui a réuni en lui les qualités, les mérites, les honneurs, les honorabilités et tout type de bien, on dit de lui qu'il est karim, qu'il est noble, qu'il est honorable. On pourrait le dire pour quelqu'un qui est noble, quelqu'un qui est généreux ou quelqu'un qui, tout simplement, qui possède énormément de qualités, on dit qu'il est Karim. Jayid? Naam. Donc le hadith, on a vu, c'est un hadith qui est authentique et qui se trouve également dans les deux authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. Naam. Et je le rappelle, le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné en ces termes quels sont les gens les plus nobles ou les plus honorables? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, les plus honorables d'entre eux auprès d'Allah sont les plus pieux, c'est-à-dire ceux qui font preuve le plus de piété religieuse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sahaba de dire, ce n'est pas sur ça que l'on t'interroge. Et là, le prophète de dire, le plus noble des gens, c'est Yusuf, le prophète d'Allah, le fils du prophète d'Allah, le fils du bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le Sahaba de réitérer, ce n'est pas sur ça que l'on t'interroge. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, de leur dire, est-ce que vous m'interrogez, Yani, sur les origines, les tribus des Arabes? Et là, ils ont dit oui. Et là, de répondre, le prophète, alayhi salatu wassalam, les meilleurs d'entre vous, à l'époque pré-islamique, Yani fil jahiliya, à l'époque pré-islamique, sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam, idha faqahu, à condition que ils deviennent des fuqaha, des ulama, des savants de l'islam. Des savants de l'islam, des juristes de l'islam. Ça y est. Donc, on avait vu que on pouvait dire en arabe idha faqahu ou idha faqihu, c'est-à-dire à condition que ils atteignent la compréhension et la connaissance et qu'ils deviennent donc des savants des règles religieuses, de jurisprudence et ainsi de suite. Naam, et qu'ils atteignent la compréhension de la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala, du dogme, du credo authentique et qu'ils s'y cramponnent en devenant ainsi des musulmans croyants monothéistes. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous à l'époque pré-islamique sont les meilleurs d'entre vous yani, dans l'islam à condition que ils atteignent la compréhension, la science, hein, l'attachement au cramponnement, l'attachement, le cramponnement aux règles religieuses édictées par Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala al-shaykh Raslan hafidhahu Allah, الصحابة سألوا عن مفهوم الكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأفادهم أنه الجمع بين شرف النسب والتقوى والعمل الصالح والعلم والفقه في الدين، وأصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خير الناس، وأفضل الصحابة من جمع بين شرف الآباء في الجاهلية وشرف الإيمان والتقوى والفقه في الدين في الإسلام. طيب دونك يجي للشيخ رسلان حفظه الله تعالى les compagnons donc ont interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام au sujet de justement la question de l'honorabilité الكرم la noblesse. طيب Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, leur a fait comprendre que l'honorabilité chez une personne, eh bien, c'est le fait qu'elle réunisse plusieurs choses. Qu'elle réunisse, premièrement, al-sharaf, les honneurs ou l'honorabilité. L'honorabilité de quoi? De la filiation, du lien, yani parental, premièrement. L'honorabilité du lien parental. Et bien sûr, avant toute chose, l'honorabilité de la piété religieuse, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, bien sûr, l'honorabilité des bonnes œuvres, l'honorabilité de la science et de la compréhension dans la religion. Donc, on répète, le prophète dans ce hadith a résumé ce qu'est el-karam chez une personne. El-karamu chez une personne, l'honorabilité chez l'individu, c'est le fait qu'il ait réuni plusieurs choses. L'honorabilité du lien de sang, l'honorabilité de la piété religieuse, l'honorabilité des bonnes œuvres et l'honorabilité de la science et de la compréhension de la religion. Donc, les gens qui possèdent une bonne moralité et des nobles comportements, à l'époque pré-islamique, quand ils ont embrassé l'islam et quand ils ont atteint la compréhension, la connaissance, eh bien, ce sont devenus les meilleurs des gens. D'ailleurs, donc les meilleurs à l'époque pré-islamique, c'est-à-dire ceux qui possédaient déjà des bonnes mœurs, des bonnes moralités, des nobles comportements à l'époque pré-islamique, eh bien, quand ils se sont convertis et ont atteint un niveau de compréhension et de science, d'ailleurs, eh bien, cela n'a fait qu'accroître leur qualité, leur bon comportement et leur bonne moralité. Ils sont donc devenus les meilleures personnes. Donc, les meilleurs compagnons, radiallahu anhum, sont ceux qui ont réuni entre l'honorabilité yani des ancêtres à l'époque pré-islamique et l'honorabilité de la foi, de la piété religieuse et de la compréhension de la religion de l'islam. ثم قال الشيخ حفظه الله الثورات الحديثة الشيوعية والديمقراطية وما أشبه تريد أن تزيل الفوارق بين الناس بمعنى أن تدمر العطاءات وهذا مضاد لما فطر الله عز وجل الناس عليه فإن الله جل وعلا خلق الناس سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا ورفع بعضهم فوق بعض درجات وجعل الله عز وجل الناس على درجات في الحياة وآتى الله بعض الناس علما وآتى بعض الناس مالا وآتى بعض الناس كرما وسخاء وآتى بعض الناس شجاعة وإقداما وحرم أقواما من هذه الفضائل فهم يريدون أن يسووا بين هذا كله بل يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة لا من حيث المسؤولية الشرعية. طيب يجي الشيخ رسلان في ذا الله تعالى يمي لاكسان سور ce qui se passe aujourd'hui, طيب, à notre époque moderne, dit que les révolutions récentes, que ce soit les mouvements communistes ou les mouvements qu'on dit démocratiques, et ainsi de suite, veulent justement effacer les différences entre les gens. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue entre les gens et a établi des différences entre les êtres humains, les uns vis-à-vis des autres. Mais ces mouvements récents, tels que, encore une fois, le communisme ou démocratique, veulent détruire et veulent supprimer ces différences. Et cela, donc, est totalement opposé à la nature saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens. Car Allah jalla wa ala, il a créé les gens et parmi eux, il y a des souverains et des gens qui sont sous les ordres du souverain. Il y a des rois, des dirigeants, des présidents. Et parmi eux, il y a des gens qui sont sous yani, l'autorité du roi, du président, du dirigeant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a clairement élevé certaines personnes sur d'autres, en degré. Allah jalla wa ala a fait yani, des gens et les amis à des degrés, des niveaux différents les uns par rapport aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à certaines personnes une connaissance qu'il n'a pas donnée à d'autres. Allah jalla wa ala a donné des richesses, des biens à certaines personnes et pas à d'autres. Allah jalla wa ala a donné à certaines personnes la qualité de la générosité, la qualité de l'honorabilité à certains et pas à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à certains la qualité de la vaillance, du courage, et pas à d'autres. Vous voyez? Et eux, donc les adeptes de ces différents courants nouveaux que l'on a mentionnés, ils veulent mettre au même pied d'égalité, yani tout le monde. Plus que ça, ils veulent mettre au même pied d'égalité l'homme et la femme. Vous voyez? Il faut savoir que cette égalité-là entre l'homme et la femme ne peut exister. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé l'homme de la même structure, de la même composition que la femme. C'est un fait, c'est quelque chose qui est factuel et qu'on ne peut nier. Taïeb. On ne parle pas, bien sûr, des responsabilités religieuses vis-à-vis desquelles l'homme et la femme sont aussi responsables les uns que les autres. Ça y est. Bimana. Anna rajula mukallaf. Bitakalif. Wa kadhalika al-mar'a. Fima yakhusuha. Li'annaha tukhalifu al-rajula. Wa tubayinuhu fi ba'di ma yakhusuha. من التكاليف لم يطلب منها الجهاد ولا أن تشهد الجمع والجماعات ويصيبها من الحيض والنفاس وما أشبه مما يصيبها من حيث تكوينها من حيث تكوينها فالمرأة والرجل سواء فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فإن الله عز وجل يؤتيه الأجر الكبير والثواب الجزيل فلا فرق في هذا. C'est-à-dire, ces gens donc veulent mettre les hommes yani, égaux aux femmes. Ça y est, on avait dit que cela n'est pas possible. Et qu'on ne parle pas, bien sûr, de la responsabilité religieuse. Dans le sens où l'homme, bien sûr, il est responsable religieusement, ça y est, et la femme également, a des responsabilités, des obligations et des interdictions au même titre que l'homme. Ça y est, bien sûr, il se peut que la femme soit concernée par des choses par lesquelles l'homme n'est pas concerné et vice-versa. Ça y est, parce que la femme, bien sûr, va être distinguée, va être singularisée par certains aspects par rapport aux hommes. Par exemple, la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation ou peut devenir une obligation, mais uniquement par rapport aux hommes. Elle n'est pas concernée. La femme également n'est pas concernée par l'obligation de la prière du vendredi ou la prière en groupe à la mosquée, les cinq prières. Donc on voit que, bien sûr, malgré le fait que la femme a elle aussi des obligations religieuses, mais il se peut que dans certaines choses, elle n'est pas concernée par les exemples qu'on a donnés. Également, de manière factuelle et physique, au niveau de sa création, la femme, elle est touchée par des choses qui ne touchent pas l'homme. Elle est touchée par les menstrues, par les lochies, et ainsi de suite. Donc là, c'est des différences qui sont réelles et qui sont là que personne ne peut supprimer. Donc la femme et l'homme, malgré ces quelques différences, sont égaux au niveau de la responsabilité religieuse, dans le sens où celui ou celle qui fait une bonne action, qu'il soit un homme ou qu'elle soit une femme, en étant croyant ou croyante, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui rétribuera d'une énorme récompense et d'une très bonne rétribution. Ça y est? Yani la rétribution, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ses créatures, ses serviteurs, ne diffère pas selon si tu es une femme ou un homme. Voyez? Amma an yusawa bayna ar-rajuli wal-mar'a wa qad rafa'a Allah ar-rajul 'ala al-mar'a fa hadha 'ajib. Al-mar'a hi al-mar'a. وينبغي أن تلزم حدودها مهما كانت فمسألة أنها تتعدى حد الله وتتجاوز حدها فهذا مضاد للفطرة ومضاد للشريعة لأن الله جل وعلا جعل القوام للرجل على المرأة بما فضل الله به الرجل على المرأة من حيث التكوين الظاهر. Donc, quant au fait de mettre à égalité l'homme et la femme, ceci est quelque chose de très étonnant. Car Allah Jalla wa Ala, sans nul doute, il a élevé l'homme et l'a mis à un niveau, yani, supérieur par rapport à la femme. La femme reste une femme. Il faut que elle qu'elle s'attache et qu'elle respecte ses limites. Quant au fait qu'elle veuille outrepasser la limite d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses limites à elle, ceci est bien sûr contraire et opposé à la fitra. La fitra, la nature saine sur laquelle Allah jalla wa ala a créé la femme. Et bien sûr, contraire donc à la charia. Car Allah Jalla wa Ala a donné à l'homme la supériorité, al-qawam, yani la gestion de certaines choses par rapport à la femme et par rapport au fait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala donc a donné une prévalence à l'homme et non à la femme. Taïeb, d'un point de vue également d'une simple constitution physique, apparente, visible. ولذلك لما حذر الله آدم وزوجه من الأكل من الشجرة التي حرم عليهما بين الله رب العالمين إذا أكلا من الشجرة فأخرج من الجنة وزوجه أن الشقاء لن يحيط إلا به أي إلا بآدم. قال جل وعلا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. سورة طه. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلم يقول فتشقيا وإنما قال فتشقى. طيب، فالشقاء يقع على الرجل لا على المرأة، لأن الأصل أن المرأة مكنونة في بيتها، وأن الرجل يسعى من أجل تحصيل الضروري لها من القوت وما أشبه. C'est pour cela qu'Allah tabarak wa ta'ala il a mis en garde Adam alayhi salam ainsi que son épouse Hawa contre le fait de consommer de l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié, il a exposé que si ils consommaient de cet arbre, eh bien Adam sera exclu du paradis, ainsi que son épouse. Mais Allah Jalla wa Ala, dans la sourate Taha, verset 117, dans le sens rapproché du verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur explique que Iblis est leur ennemi déclaré, il dit « Fala yukhrijannakuma min al-jannah » c'est-à-dire « N'obéissez pas à Iblis, car si vous lui obéissiez, il vous fera sortir tous les deux du paradis. Fatashqa. Et tu seras, en difficulté ou malheureux. D'ailleurs, donc vous remarquez ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit fatashqaya. Alors qu'au début, Allah, il a parlé, yani, au muthanna, au duel. Pour ceux qui ont un peu étudié l'arabe, les bases, le duel. Allah a dit, et qu'ils ne vous sortent pas tous les deux, yani toi, Adam et Hawa, du paradis. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué ash-shaqa, yani le malheur, il a dit fatashqa. Il a parlé à Adam seulement. Et il n'a pas dit fatashqaya. Tayyib. Il a parlé seulement à Adam alayhi salam. Car ash-shaqa, il dit ici, le malheur ne va tomber que sur l'homme, pas sur la femme. Parce qu'à la base, la femme, elle est censée rester yani, en sécurité dans sa maison. Caché. Alors que l'homme, lui, sa tâche, sa mission, eh bien, est de faire des efforts pour aller chercher ce dont la femme a besoin. Parmi les provisions, et ainsi de suite. Vous voyez? Et parce que la femme, donc, normalement, elle est sous l'autorité de l'homme. Jayid. فهذا كله من التكليف الذي جعل الله عز وجل منوطا بالرجل حتى إن المرأة إذا ملكت بذمة مالية صحيحة ما ملكت من المال لا يلزمها شرعا أن تنفق على البيت لا درهما واحدا حتى إن من عدم التزامها بذلك وعدم تكليفها به إذا أرادت أن تتصدق على زوجها أن تتصدق على أبنائها لأنه لا يلزمها النفقة لا على الزوج ولا على الأبناء فهم يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة وبين الشريف والوذيع وبين الشجاع والجبان وبين البخيل والكريم هذا أمر عجيب وهذا كله مضاد لما فطر الله الناس عليه الرجل يكون شريفا نسبا شريفا في خلقه في أصله ولا يمكن أن يجعل الشريف كالوذيع هذا لا يمكن أن يكون بحال فهذا معتبر في كثير من الأمور طيب donc tout ceci parmi les Donc, les responsabilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'elles soient liées seulement à l'homme. Voyez? Donc, la femme, même si, par exemple, elle possède un patrimoine, une fortune, voyez? Eh bien, il ne lui est pas obligatoire religieusement, de dépenser pour son foyer. C'est une responsabilité et une obligation qui n'incombe qu'à l'homme. Il ne lui est pas obligé à la femme, même si elle est riche, de dépenser un seul dirham. Voyez? Donc elle a même le droit, si elle le désire, vu qu'elle n'est pas obligée de dépenser ni pour son foyer, ni pour ses enfants, ni pour son mari, si elle désire, elle peut même verser as-sadaqa et l'aumône. Verser une aumône pour son époux, et elle en sera récompensée par Allah. Verser une aumône pour ses enfants, et elle en sera récompensée par Allah, Jalla wa Ala. Pourquoi? Parce que elle n'est pas obligée religieusement de dépenser ni pour son mari, ni pour ses enfants. Subhanallah. Aïna. Et ces gens, hein, on sait de qui on parle, hein, les ignorants, les kuffars, ils veulent mettre au même pied d'égalité l'homme et la femme. Ils veulent même mettre au même pied d'égalité celui qui est honorable et celui qui est méprisable. Celui qui est vaillant, courageux, et celui qui est lâche et poltron. Celui qui est avare et radin, et celui qui est généreux et qui donne. Cela n'est pas possible. Et cela est une chose qui est, bien évidemment, étonnante et opposée à la nature saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens. Donc l'homme peut tirer son honorabilité par rapport à son lien de parenté, par rapport également et également par rapport à sa constitution et à ses origines. Et il n'est pas possible de même de mettre à égalité celui qui est noble, celui qui est méprisable. D'ailleurs, ceci est impossible. Ceci est totalement impossible. ثم قال المؤلف وهو شيخ رسلان حفظه الله ولكن من حيث التكليف الناس فيه سواسية كأسنان المشط الناس سواسية أمام التكاليف لا يرتفع أحد على أحد ولا ينبغي لأحد أن يفخر على أحد ولا أن يترفع على أحد بل الكل عبد لله جل وعلا ولكن من غير إلغاء للفروق الفردية التي ميز الله بها بعض الناس على بعض فينبغي أن يراعى هذا وإلا هدم المجتمع رأسا على عقب وهذا ما يراد للأمة المسلمة. Mais, dit le cheikh, encore une fois, vis-à-vis de la responsabilité religieuse, les gens sont égaux. Que tu sois riche, pauvre, que tu sois de famille, connue, célèbre, ou d'une famille qui n'est pas connue ou qui n'est pas puissante, peu importe. Au niveau religieux, on est égaux. Comme dit le cheikh, on est égaux. Comme les dents d'un peigne. Les gens sont égaux vis-à-vis des responsabilités religieuses. As-salat, as-siyam, al-hajj, al-zakat. Personne ne peut se mettre supérieur à quelqu'un d'autre. Ou ne peut s'enorgueillir au-dessus de quelqu'un d'autre. Tous sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que tu remarqueras que lorsque l'on fait la prière dans les soufouf, il se peut que le roi prie à côté d'un citoyen lambda. D'ailleurs, il se peut qu'un milliardaire prie à côté d'un pauvre. Parce que vis-à-vis des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est tous égaux. D'ailleurs, mais cela ne veut pas dire qu'on doit supprimer les différences individuelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées en nous et par lesquelles Allah jalla wa ala a distingué certains par rapport à d'autres. Il faut que on considère et qu'on prenne en compte ces différences. Car sinon, il dit les cheikhs, la société sera détruite et sera mise, yani, sens dessus-dessous, comme on dit. À l'envers. D'ailleurs, donc, il faut que on prenne soin de toutes ces notions, car c'est ce qui est souhaité de la part de la communauté musulmane. ثم قال الشيخ لكن أبناءها لا يعون ولا يدرون ولا يفقهون لا يمكن أن يجعل الشباب الثائر المتحمس كالشيوخ في حكمتهم وفي بعد نظرهم فينبغي أن يسلموا الزمام والقيادة للشيوخ لمن كان من أهل الحكمة من الذين يسيرون دفة الأمر على مقتضى قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. Puis il finit le cheikh en disant, mais yani les enfants, yani les jeunes de la communauté islamique aujourd'hui ne prêtent pas attention à cela. Ils ne savent pas et ne comprennent pas. Il n'est pas possible, il dit le cheikh, de mettre à égalité un jeune, une jeune personne qui a des pulsions, qui est excité, qui est yani, des fois fanatique. On ne peut pas mettre un jeune comme ça à égalité avec une personne qui est âgée au niveau de la sagesse, au niveau de la réflexion, au niveau de la vision du monde. Il faut que on donne le commandement, la direction, taillée aux personnes âgées. Parmi ceux, bien sûr, qui font partie des sages. Personnes qui ont atteint un âge, yani, qui fait qu'ils ont atteint l'âge de la sagesse, de la connaissance. Parmi ceux qui vont amener et qui vont amener la Ummah et diriger la Ummah en fonction de قال الله وقال رسول, en fonction de ce qu'Allah il a dit et de ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. Donc les meilleurs d'entre vous à l'époque pré-islamique seront les meilleurs d'entre vous dans l'islam. قال الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى حقا لقد اصطفى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه من العلم ما فيه سعادة البشرية بل سعادة عالم الإنس والجن إن يعتصموا به كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. يجي الشيخ زيد المدخلي حفظه الله تعالى il est clair qu'Allah جل وعلا a choisi son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et il lui a révélé, il lui a donné de la science ce qui engendrera le bonheur de l'être humain. Plus que ça, le bonheur de l'être humain et des djinns, à condition qu'ils s'y attachent. Comme on l'a vu dans le hadith rapporté par l'imam Malik, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai laissé en vous deux choses. Si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais après moi. Ces deux choses sont le Coran et la Sunna. فَلَقَدْ كَانَتِ الْأَسْئِلَةِ تُوَجَّهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُجِيبُ عَنْهَا بِوَحْيٍ مِّنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى ومن جملة الأسئلة هذا السؤال الذي دونه الإمام البخاري في هذا الكتاب عن أكرم الناس أي من هو أكرم الناس فأجابهم بما ذكره الله جل وعلا في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أهل التقوى الذين جعلوا بينهم وبين النار وقاية بفعل المأمورات وترك المحظورات والمكروهات وتقرب إلى الله جل وعلا بما يرضيه من المستحبات كل ذلك وقاية من النار وكل أو كل من كان أكثر تقوى فهو الكريم. طيب بيجي الشيخ donc dans le hadith طيب qu'on a traduit au début du cours. Les Sahaba ont posé donc cette question-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il a répondu donc par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première réponse qu'il a donnée, c'est un verset coranique. D'ailleurs, donc, qui sont, la question qui a été posée, qui sont les gens les plus honorables? Il a répondu par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala de la surat al-Hujurat. Certes, les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah sont les plus pieux, sont ceux qui font le plus preuve de piété religieuse. Atqakum, c'est-à-dire les gens de la taqwa. C'est qui les gens de la taqwa? Qui sont al-muttaqoun, les pieux? Eh bien, retenez bien la définition, mes frères et mes sœurs. C'est ceux qui ont mis entre eux et le feu de l'enfer une protection. Voyez, c'est qui les muttaqoun, ahl taqwa? Les gens de la taqwa, c'est ceux qui ont mis entre eux et le feu de l'enfer une protection. Comment? Eh bien, tout simplement en accomplissant les ordres et en délaissant les interdits et les choses détestables. Vous voyez? Et en se rapprochant d'Allah tabarak wa ta'ala par ce qui le satisfait parmi les choses recommandées. Donc tout ceci est compris dans la protection contre le feu de l'enfer. Donc plus la personne fera preuve de taqwa, et plus on pourra dire d'elle qu'elle est karim. Voyez, plus tu feras preuve de taqwa vis-à-vis d'Allah tabarak wa ta'ala, et plus tu seras quelqu'un de noble pour Allah, quelqu'un d'honorable, d'élevé. Voyez, c'est clair. Fa lamma kana su'al al-qawm 'an shay'in ghayra dhalik والذي أجابهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى أن يسألوا عنه لما فيه من صلاح الدنيا والآخرة قالوا لسنا عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليهم السلام يوسف الذي ابتلي بابتلاءات وامتحن بمحن فصبر وألجم نفسه بلجام التقوى حتى جعل الله له فرجا ومخرجا من المحن التي وقع فيها كما قص الله جل وعلا خبره في سورة كاملة سميت سورة يوسف. طيب donc on a vu lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné une réponse sur une chose qu'en vérité, les sahaba n'avaient pas interrogée. Et on a vu aussi que, par rapport à la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que normalement, la priorité, la question qu'ils auraient dû poser en priorité, c'est ça, qui sont les plus nobles auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Jayyid, quoi qu'il en soit, pourquoi? Parce que le taqwa, c'est ce qui fait leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Quoi qu'il en soit, ils ont dit donc, ce n'est pas sur ça que l'on t'interroge. Alors le prophète, de leur donner une autre réponse, selon sa compréhension, il a dit, les plus nobles entre les gens, eh bien c'est Yusuf, le prophète d'Allah, le fils du prophète d'Allah, le fils du bien-aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc Yusuf, qui est le fils de Ya'qub, qui est le fils d'Ishaq, et qui est le fils d'Ibrahim, alayhum assalam. Donc on voit ici que le prophète leur a donné une réponse d'honorabilité concernant la filiation parentale. Et quelle belle filiation que celle-là, subhanallah. Donc Youssouf, lui qui a été éprouvé par de nombreuses épreuves, qui a été testé par de nombreux tests par Allah Jalla wa'ala, mais qui a patienté et qui a retenu son âme par la piété jusqu'à ce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala lui a offert le secours et une issue favorable. Comment Allah Jalla wa Ala donc a mentionné son récit dans la sourate dénommée sourate Yusuf alayhi salam. Thumma qalu laysa an hadha nas'aluk. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا وهذا الذي حصل في عهد النبوة لما كان القوم كلهم في جاهلية حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فبادر الأخيار من قريش ومن غيرهم بادروا إلى الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتفقهوا في الدين وصاروا قادة للناس بالعلم والبرهان وقادة في الجهاد لإعلاء كلمات الله ونصرة دين الإسلام ونصرة دين الإسلام فانطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا والمراد بالفقه هنا الفقه الإسلامي الذي جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. Puis ils ont dit donc, après la deuxième réponse de Nabi صلى الله عليه وسلم, ils ont dit, ce n'est pas sur cela qu'on t'interroge. Alors le prophète leur a posé la question à son tour, et leur a dit, est-ce que vous m'interrogez sur yani, les tribus arabes, sur les tribus des arabes, sur les origines des arabes? Et là ils ont dit, oui. En fait, ils avaient posé la question pour savoir qui sont les meilleurs des Arabes, le meilleur clan parmi les clans des Arabes. Et là, il leur a dit, les meilleurs d'entre vous à l'époque pré-islamique sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam, à condition que, on a dit, ils atteignent la connaissance et la piété et la science. Donc, ça, c'est une chose qui... Bien sûr, c'est produit à l'époque de la prophétie, du fait que les gens, tous les gens, yani, étaient donc dans la jahiliya avant que le prophète n'ait été fait prophète par Allah tabarak wa ta'ala. Jusqu'à donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala en tant que prophète. Et donc les meilleurs d'entre eux parmi le clan de Quraysh et autres que eux, se sont précipités et ont accouru vers la foi au message de Mohammed, le meilleur d'entre eux, et ont atteint le degré de compréhension de la religion, et sont devenus les commandants en chef des gens par la science, par l'argument, par la preuve, et les commandants dans la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le but de secourir la religion de l'islam. Donc ces gens-là, qui sont devenus les meilleurs des gens dans l'islam, eh bien, ils sont concernés, bien sûr, par la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Khiyarukum fil jahiliya ». Les meilleurs d'entre vous dans la jahiliya sont les meilleurs d'entre vous dans l'islam, à condition qu'ils atteignent la compréhension de la religion. Donc ce qui est visé ici par « al-fiqh », c'est la jurisprudence islamique amenée par le messager de l'islam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naktafi bi hadha al-qadr insha'Allah ta'ala wa al-ilmu inda Allah wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallama taslima wa jazakumullahu khayran wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.